Salut Brasero, salut Toulouse, salut le monde, en direct depuis Canal Sud 92.2. Brasero, Brassage Radio, la meilleure émission toulousaine. Bon, c'est pas un scoop, en ce moment, les privations de liberté et la violence des États montrent leur sale gueule un peu partout. Mais comme d'hab, on est plus ou moins mal lotis selon où on se trouve sur la carte. On allait parler de toute autre chose, mais le coup de fil d'un pote, en Colombie, nous a fait changer d'avis et de programme. C'est un ami, donc, qui nous exprime le besoin de raconter ce qui se passe là-bas, maintenant, et d'interpeller sur la répression que subit le mouvement social qui a commencé il y a quelques semaines en Colombie contre une réforme fiscale ultralibérale. Plusieurs jours de manifestations massives, depuis le 28 avril, dans les plus grandes villes du pays, ont fait reculer le gouvernement et démissionner le ministre de l'économie. Un nouveau texte avec quelques bémols est en cours d'écriture. Mais la bataille est loin d'être gagnée et l'État, secondé par les paramilitaires, cherche à faire taire le peuple par le sang et la terreur, comme d'hab. En une nuit, celle du 3 mai, dans un quartier populaire de Cali, la répression a fait 5 morts et 33 blessés. Et depuis le jeudi 7 mai, on connaît les chiffres, là il y a 364 blessés, 359 personnes portées disparues et 26 morts en tout. Le tout, donc, dans un contexte de pandémie et d'extrême paupérisation, de quoi faire déborder la cocotte minute. Alors, donc, on a changé de programme. Aujourd'hui, ce soir, on va vous parler de la Colombie. On a invité des amis sur le plateau. Donc, vous pouvez vous présenter. Il y a d'abord Alejandro.
Alejandro Muñoz, estudiante de doctorado en artes, profesor de periodismo y antropólogo en la Universidad de Antioquia, hoy.
Alors, je te coupe pour te traduire. Donc, c'est Alejandro qui est doctorant en art et qui est aussi prof de
Universidad de Antioquia de periodismo, journaliste.
Si, il est juif. Il est journaliste et enseignant à l'Université d'Antioquia.
Anthropologue.
Et anthropologue.
Et invitado por el proyecto Transmigrara aquí, la Universidad de Jean Jaurès. Y muy agradecido por esta invitación a hablar de lo que está pasando en Colombia, esas horribles noches que estamos pasando en Colombia.
Et donc qui est venu ici pour 6 mois pour un programme de recherche à l'université de Jean Jaurès et qui remercie un peu cette discussion à la radio de ce qui se passe en ce moment en Colombie et des atroces nuits qui sont en train de passer.
On accueille merci beaucoup d'être venu. On accueille aussi Felipe.
Bonsoir, je suis Andrés Felipe López, pareil, doctorant à l'université Toulouse, Mirail, et en biographie, qui travaille avec des mouvements paysans. Bonsoir.
Merci, et aussi Amparo.
Oui, moi je suis Amparo Thierry, et je suis médecin, économiste. J'ai travaillé aussi à l'Université nationale de Colombie, dès celle-là il y a plus de 30 ans, et j'ai retourné à deux reprises. Et effectivement, j'ai travaillé ici depuis 7 ans avec les mouvements d'économie solidaire, les MES. Actuellement les MES, et on a fait une petite ONG aussi pour visibiliser les commerces équitables InTiny.
Ok, ben, merci beaucoup à tous les trois d'être venus. On va faire un plateau en direct ce soir et Ariela va essayer de nous traduire en français, en espagnol, en direct. Pour le moment, on va passer à un son parce qu'il y a un ami colombien qui s'appelle Christian qui nous a envoyé des ressentis, des témoignages de ce qu'il est en train de vivre là-bas qu'on va pouvoir commenter après. et je vous laisse écouter ça.
Con hambre, con rabia, con indignación, la reforma tributaria la tomamos colectivamente como un...
Avec la faim, avec la rage, avec beaucoup d'indignation, on s'est levé contre la loi fiscale qui est en train de passer.
Una insensatez, claramente como una expresión distante de leer la realidad colombiana por parte de los gobernantes.
Qui était complètement insensé et qui était vu par les gouvernants comme quelque chose de complètement décollé, enfin, non, qui n'était pas vu par les gouvernants, mais quelque chose qui était complètement décollé de la réalité posée par les gouvernements.
Entonces empieza a convocar al paro que hoy estamos viviendo.
Et c'est ça qui a lancé la grève qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui.
Des années se han venido consolidando unos espacios organizativos, como es el Comité del Paro, que está integrado por fuerzas sociales.
Et donc il y a une organisation, une auto-organisation qui s'est faite avec différents groupes autour de pour organiser cette grève.
Populares, sobre todo por fuerzas sindicalistas en este país, por grandes centrales obreras.
D'abord donc en grosse partie par les syndicats, par des grosses forces ouvrières de tout le pays.
Y entonces el Comité del Paro, en acompañamiento, por supuesto, por el movimiento social, los distintos movimientos sociales colombianos. Salimos a marchar este 28.
Et donc ce comité d'organisation et donc avec tous les syndicats mais aussi d'autres secteurs, on a commencé à marcher, à faire cette grève et ces manifestations le 28 avril.
En principio para exigir la derogación de la reforma tributaria y la renuncia del entonces ministro Carrasquilla.
Alors d'abord pour faire reculer, même pour faire tomber cette loi, cette réforme tributaire, donc fiscale, et pour faire démissionner le ministre d'économie.
La respuesta del gobierno ha sido la militarización, ha sido el uso de la violencia y el...
La réponse du gouvernement, ça a été la militarisation et l'usage de la force, de la violence.
La vulneración de derechos humanos contra quienes protestamos, contra las personas que manifestamos nuestros malestares en las calles.
Así... Et la violation des droits de l'homme contre les personnes qui manifestent juste leur mal-être dans les rues.
Ha sido el miedo y ha sido entonces el fortalecimiento de la fuerza pública en las ciudades.
Et donc malgré la peur, ça a été le renforcement des forces publiques dans les villes.
En la calle entonces están haciendo otro país. En la calle nos hemos encontrado con el malestar y los acumulados y los sinsabores y la rabia, pero también con las propuestas que hemos acumulado.
Et donc il y a un espèce de mouvement, une espèce de vie qui est née dans la rue, où on s'est trouvé avec le mal-être, avec toute la rage, mais aussi avec des nouvelles propositions et avec de la force, quelque chose qui s'organisait, qui sortait de là.
Durant ces malos gobiernos de los últimos años, en el paro no han participado las comunidades indígenas a través de las minas, han participado los campesinos también.
Et donc il y a aussi les communautés indigènes qui participaient à ce mouvement à travers des mingas et aussi les communautés paysannes.
Los estudiantes se han sumado aquí en las calles, los educadores, las madres, las...
Les étudiants aussi font partie de ce mouvement, mais aussi les enseignants, les éducateurs, les mères, les familles.
Feministas,
les féministes.
La iglesia ha sido, digamos, un encuentro también de reivindicaciones particulares, pero que de fondo están poniendo entonces como lenguaje común.
Et donc c'est différentes formes et ça a fait une espèce de rassemblement de langages très différents et qui arrive à apporter une idée commune.
Un malestar.
Un mal-être.
Y una rabia frente a un proyecto político de país que se ve representado en Álvaro Uribe Vélez, en el uribismo.
Et c'est donc une rage contre un mal-être et contre le gouvernement en fait qui était déjà lancé par Uribe et par l'uribismo qui était donc le président précédent.
Y en el Partido Centro Democrático en particular.
Et dans le Parti Centro Démocrate en particulier.
Lugares como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira se han caracterizado por unos ejercicios colectivos de resistencia.
Alors les grandes villes comme Cali, Bogotá, Medellín,
Pereira,
merci. On montrait comme ça des expériences d'organisation nouvelles et très fortes.
Pese al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, del SMAT y el ejército.
Face à l'usage de la violence, d'une violence particulièrement forte, de la police, de l'armée et des paramilitaires.
Es impresionante ver en Cali, por ejemplo, la capacidad de organización barrial, colectiva que ha tenido la gente.
C'est impressionnant à Cali notamment de voir la force du mouvement dans les quartiers.
Para resistir incluso oleadas de paramilitarismo. Además de que el gobierno se vale de la institucionalidad.
C'était assez impressionnant de voir ces formes-là dans les quartiers pour lutter contre une violence. Contre la violence des paramilitaires qui était extrêmement forte.
Los poderes que constituyen el Estado se ha valido también del ejercicio paramilitar en los territorios para amedrentar, para generar miedo.
Et par tout ça, il y a eu les forces aussi paramilitaires, plutôt là dans les provinces, hein, pas dans les grandes villes, pour aussi générer de la peur et de la terreur.
Para perseguir y para asesinar a las personas que nos estamos manifestando en este momento.
Pour poursuivre et assassiner directement les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui et qui sont en train de prendre la parole.
Cali ha vivido últimamente unos episodios enormes de violencia, donde se bajan camionetas a disparar contra los manifestantes.
À Cali notamment, il y a eu des épisodes ultra violents où il y a des camionnettes de paramilitaires qui descendent et qui tirent à balles réelles sur les gens directement.
El día de ayer, por ejemplo, en el marco del apoyo de la minga indígena en la ciudad de Cali.
Alors hier, par exemple, en appui à la minga, qui est un rassemblement de communautés indigènes.
Civiles empezaron a dispararle a los compañeros indígenas que estaban haciendo allí sus ejercicios de reivindicación.
C'est des civils qui sont venus tirer sur les indigènes qui étaient en train de porter leurs revendications.
Y este no es un caso aislado ni es el único caso que se ha presentado en el paro. Lo que hemos visto entonces es un diálogo entre las fuerzas militares y paramilitares.
Et donc c'est un exemple, mais c'est pas le seul qu'il y a eu depuis le début de la grève. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un dialogue entre les forces armées de la police, les militaires et les paramilitaires.
En nuestro país. Pese a ello, la resistencia ha continuado y eso significó entonces que el lunes de la semana anterior el gobierno no solamente retirara la reforma tributaria.
Alors malgré ça, il y a eu une très très forte résistance et ce qui a permis notamment que lundi dernier le gouvernement a retiré cette réforme fiscale.
Era la exigencia por la cual inició el paro, sino que también
qui était la première exigence pour laquelle a commencé la grève.
Bien, el ministro presentó la renuncia, el ministro Carrasquilla, por entonces presentó la renuncia.
Et le ministre d'économie, Carrasquilla, a démissionné.
Y aquí hay un momento de inflexión o un momento esperanzador de alguna manera en la movilización social. Y es que nos entendemos en las calles que no solamente estamos hartos de una reforma tributaria, que lo que intenta es empobrecernos más en un momento de pandemia, de...
Et ce qui s'est passé, c'est que ça nous a donné, ça nous a donné beaucoup de force à ce moment-là de la lutte, hein, de la bataille, parce qu'en fait, on était là contre cette réforme, mais pas uniquement. C'est toute une situation néolibérale et en plus en pleine pandémie qui nous empêche
hambre,
de vivre.
De desconfianza, incertidumbre, de vivir el día a día.
Qui nous empêche, qui nous tient par la faim, l'incertitude, et qui nous empêche de vivre au jour le jour.
Sino empieza entonces, empezamos entonces a entender que lo que está detrás de toda esta rabia, que lo que está detrás de toda esta indignación es un proyecto político que pasa por el uribismo.
Et on comprend que toute cette rage et toute cette colère qu'on a, elle vient d'un projet politique qui vient de Uribe, de l'uribisme.
Entonces el paro continúa y continúa además con mucha fuerza, se entonces suman sectores como los transportadores y los camioneros.
Et donc cette lutte continue, elle continue avec de plus en plus de force, notamment il y a des secteurs qui se rajoutent comme ceux des camionneurs.
Ellos en el país. Uno puede encontrar en las manifestaciones ahora varias reivindicaciones.
On peut trouver donc dans ce mouvement-là maintenant différentes revendications.
On peut escuchar, por ejemplo, el cumplimiento al proceso de paz.
D'abord la mise en acte du traité de paix.
En el país, uno puede encontrar también las exigencias de desmonte del ESMAD, que es el escuadrón móvil antidisturbios.
On demande le démantèlement de l'ESMAD, qui est un escadrón anti-émeute.
Que a propósito se crea en el 99 como una fuerza transitoria en el marco de la agudización del conflicto.
Qui s'est créé en 1999 pendant la 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 pardon, vas-y, vas-y, parle.
Une force transitoire, juste.
Ah oui, qui était une force transitoire au moment de la, la démilitarisation, la militarisation du conflit.
En las ciudades, pero que Álvaro Uribe Vélez robustece y fortalece, y en el año 2017 crea un curso para potenciar esta fuerza a nivel nacional.
D'accord, donc c'était une force qui avait été créée à cette époque-là et qui devait être juste transitoire et que finalement n'a pas été, enfin, a été maintenue et même renforcée par Uribe en 2017.
National. Hay, por ejemplo, manifestaciones que exigen la reforma, la derogación de la reforma a la salud, que es una reforma de la cual no se ha hablado mucho por parte del gobierno.
Il y a aussi dans le mouvement des gens qui demandent qu'on enlève une réforme de la santé, qui est une réforme dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais qui est en train de se mettre en place.
Pero que ya si tienen documentos públicos, lo que se intenta es seguir dañando la posibilidad de acceso y derecho fundamental a la salud por parte de los colombianos más.
Et en gros, c'est une réforme qui empêche encore plus l'accès à la santé pour la plupart des Colombiens.
Pobres.
Pauvres.
Et lo que uno siente de fondo, detrás de cada reivindicación particular, detrás de cada sector, es que no estamos dispuestos a aguantarnos más un proyecto político de exclusión de hambre.
Et surtout, ce qu'on ressent, c'est que derrière chaque revendication particulière, il y a surtout le fait qu'on n'est plus du tout prêt à accepter un gouvernement qui nous tient par la fin.
Y de guerra en nuestro país, que en este momento encabeza Iván Duque como presidente.
Et qu'on ne supporte plus Uribe et les forces qui dirigent notre pays.
Las movilizaciones aquí han estado llenas de imaginación, pero también llenas de aguante popular.
Les manifestations ont été très créatives jusqu'à maintenant et aussi avec un très très gros soutien populaire.
En los días suelen ser movilizaciones y paros, digamos, del transporte de manera.
Alors pendant la journée, c'est surtout des manifestations et la grève, hein, l'arrêt des transports notamment.
Et culturelle, artistique, sociale, communautaire.
Et avec des mouvements artistiques, culturels, communautaires.
Los camioneros hacen ollas comunitarias, en el barrio se organizan también puntos.
Les camionneurs, par exemple, ils font des cantines populaires. Dans les quartiers, il y a des points de rassemblement, des piquets.
Hay expresiones musicales en las calles, pero lo que viene pasando en las noches es que se han vuelto noches de sangre.
Et pendant la journée, il y a aussi de la musique, etc. Mais par contre, la nuit, ce sont des nuits sanglantes.
Noches de violencia.
De violence.
Y alrededor de ello, a nivel barrial, se vienen organizando barricadas. La gente viene resistiendo desde sus zonas, desde sus localidades.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens font des barricades et protègent les endroits où ils sont selon la zone et les quartiers.
Y entonces se han venido dando procesos y ejercicios de confrontación.
Et là, donc, il y a surtout des exercices, mais il y a surtout des scènes, des expériences de violence et de confrontation très fortes.
Comparto en particular, el día sábado, después de salir de una movilización muy cerca, estaba haciendo una pinta en una pared, un graffiti en una pared.
Et donc, moi, par exemple, samedi dernier, je sortais d'une manifestation et j'étais en train de faire un graffiti sur un mur.
De repente, se parquea una camioneta blanca, se baja una persona con un changón, con un arma de corto alcance muy poderosa.
Et il y a quelqu'un qui descend d'une camionnette et qui s'approche avec une arme très puissante.
Me amenaza, yo tiro la lata de aerosol, salgo a correr y esta persona me persigue y digamos que me dispara, pero no.
Et du coup, il a pointé son arme vers moi, j'ai lancé ma bombe à aerosol, je suis parti en courant, il a couru derrière moi et il m'a tiré dessus, donc
no,
il m'a pas touché.
No me da, logro estar bien. Estas expresiones paramilitares están pasando durante las noches. La policía se está organizando con él.
Voilà, donc il m'a pas touché, ça va, mais du coup c'est ce genre de choses qui se passe et c'est ce que font les forces paramilitaires et la police pendant la nuit.
Les SMAT para acoger a cualquier persona que esté en las calles están haciendo montajes judiciales en este momento y están entonces asesinando y masacrando sobre todo a las juventudes.
Et donc c'est ça qu'ils font pour attraper les gens. Il y a aussi des montages judiciaires qui sont pas clairs et voilà. L'idée c'est d'attraper quiconque soit dans la rue et à l'ouvrir pendant la nuit.
Durante las noches de estas calles.
Ok. Merci à Chris pour ce témoignage presque en direct. On l'a eu tout à l'heure là. Et merci à Ariella pour la traduction en direct. Du coup, moi, j'avais, je sais pas, envie d'entendre vos réactions et que vous nous expliquiez la Colombie résistante et de 2021 et la Colombie répressive 2021, c'est-à-dire quelles sont les forces en présence, que vous pouviez, si vous pouviez par exemple expliquer ce que c'est les paramilitaires, l'uribisme, enfin pour réexpliquer, et c'est quoi les civils qui s'arment, etc. Donc juste un petit tableau géographique, géopolitique on va dire plutôt, de la Colombie.
Bah, disons que la grève, elle vient de 2019, au moment de la COVID-19, la pandémie, etc. Ça a été repoussé dans quelque sorte, mais ça a revenu et c'est une revendication qui est ressortie de plusieurs secteurs de mobilisation. Donc, ce qui dit les témoignages et sur des secteurs traditionnels des syndicats, mouvements indigènes, paysans, etc. Mais aussi une colère qui est montée dans les populations, les gens des quartiers populaires. Donc, ce qui forme les points de rassemblement, les cantines populaires, des points de blocage sur les villes. Donc, c'est assez hétéroclite, cette émergence, cette rage qui émerge. Et la Colombie répressive 2021, c'est cet héritage de culture paramilitaire. Donc, les paramilitaires, c'est les milices historiquement des grands propriétaires terriens qui ont une manière de conduite, donc d'éviction pour tuer les gens dans la campagne. Donc, c'est une façon de faire qui date de tout le XXe siècle, et apparemment, après la colonisation, et que comme la rage est montée et est revenue en ville, bah, il reproduit ces mêmes modèles en ville. Donc c'est plus visible, comme la mobilisation est vraiment. On parle qu'on n'avait pas une mobilisation depuis une grève des années 70, de cette ampleur. La répression est de la même façon. Donc, et ce qu'ils disent sur toutes les nuits. Il n'y a pas de confrontation, en gros. C'est des civils qui viennent en camionnette et qui tirent sur les gens, sur les points de rassemblement, impunément, et à côté de la police.
Yo llevo 8 días en Toulouse.
Ça fait 8 jours que je suis à Toulouse.
Es decir, llegué a Toulouse cuando la movilización estaba empezando.
Donc, je suis arrivé quand la mobilisation commençait tout juste.
Hoy por hoy tengo personas conocidas en la movilización, pero quiero hablar específicamente del combustible que está, digamos, dándole vida a esta movilización.
Et donc j'ai des personnes très proches qui sont actuellement dans les mobilisations, mais ce que je voulais dire c'était parler du combustible, hein, de ce qui fait vivre vraiment ce qui fait émerger vraiment ce mouvement social.
Los jóvenes de hoy que están en las calles no se inscriben a ningún movimiento político con claridad, ni siquiera a los movimientos guerrilleros que históricamente habían captado la izquierda en Colombia.
Les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui appartiennent à aucun groupe politique précis, ni à aucune ligne politique précise, même pas des groupes de guérilla des années 70 qui faisaient la gauche vraiment de la Colombie.
Los jóvenes de hoy que tomaron las calles y que están transformando a Colombia solamente creen en sí mismos y en sus posibilidades y en sus posibilidades de agrupamiento.
Les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui croient seulement en eux-mêmes et à leur moyen de se regrouper et de faire ensemble.
Un directeur de cine colombiano, Victor Gaviria, hace 20 ans, hizo una película que creo que 20 un poco más 30, hizo una película que se llama Rodrigo de No Futuro, como una especie de Jóvenes sin Futuro.
Il y a 20 ou 30 ans, un cinéaste colombien qui s'appelle Gaviria avait fait un film qui s'appelait Rodrigo No Futuro, qui était vraiment sur une jeunesse avec aucune vision de futur.
Y es que los jóvenes de ahora no es que no crean tener futuro, sino que tienen una conciencia clara del presente.
Et c'est pas que les jeunes d'aujourd'hui visualisent bien leur futur, mais en tout cas ils ont une conscience très claire de leur présent.
Y especialmente, como ninguna otra generación en Colombia, hoy esa generación no tiene un precio.
Y a la diferencia de generaciones anteriores en Colombia, la generación de hoy no tiene precio.
Lo que pasa en Colombia con el tema político es que los políticos siempre han representado a la gente de bien.
Ce qui se passe en Colombie, c'est que les hommes et les femmes politiques ont toujours représenté les riches.
Y la gente de bien es la que cree que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta clase.
Et ces gens-là pensent qu'il y a des gens de première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe.
Entonces, los de segunda, tercera y cuarta clase, que somos nosotros, los que nos movemos en el escenario popular, hemos desde hace muchos años, casi que desde la historia republicana para acá, comido de las migajas que da Colombia.
Ceux de la deuxième, troisième, quatrième classe, c'est-à-dire nous et tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, depuis toute l'histoire de la République et de l'indépendance en Colombie, on s'est satisfait des petites miettes que nous balançaient les riches.
El narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez representa a los ricos del país y a la mafia del país representada en el paramilitarismo.
Et dit le narco-paramilitaire Uribe, qui est donc l'ancien président,
représente à la gente de bien y a la mafia colombiana representada en el paramilitarismo y en el empresariado.
C'est lui qui représente en gros les riches, les paramilitaires et la mafia qui tient le pays aujourd'hui.
Es decir, la gente de bien, de primera clase, que quiere exterminar a los demás.
Et c'est ça donc les gens de première classe qui essaient d'exterminer tout le reste.
Pero ahora los jóvenes que se tomaron las calles y que no piensan claudicar.
Mais aujourd'hui les jeunes qui ont pris la rue et qui pensent pas faire un pas en arrière.
Saben perfectamente que es tras la manifestación constante y en algunos escenarios violenta, porque esto no es una manifestación de rosas, hay que dejarlo claro.
Et ils savent très bien que c'est à travers le mouvement de la rue et à travers des manifestations qui peuvent être aussi violentes, ça il faut que ce soit clair que c'est pas une des manifestations de roses pacifistes.
Solo en ese hecho continuado es que podrán ver transformaciones serias en el país, transformaciones que se vean en decisiones electorales, porque Colombia toda la vida se ha manifestado, pero eso no ha tenido incidencia en el tema electoral.
Et ils disent que c'est que en continuant ces manifestations qu'ils arriveront à des effets qui soient visibles et des effets qui soient visibles aussi au niveau électoral, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de manifestations en Colombie, mais jamais ça s'est ressenti après pendant les élections.
Et para terminar y para que qué pena como acomodarme la palabra, lo que quiero decir es que quizá hoy como en ningún otro momento en la historia de Colombia hay un escenario de esperanza.
Et donc pour finir, pour pas monopoliser la parole, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, peut-être comme jamais en Colombie, il y a un scénario d'espoir.
Y es un escenario de esperanza porque finalmente los jóvenes sí creen en un proyecto colectivo, no en un proyecto individual.
Et que c'est la première fois que, enfin, et que c'est de l'espoir parce que c'est la première fois que les jeunes croient en un mouvement collectif et pas en l'individu, quoi.
Pero la transformación de Colombia solamente tendrá posibilidad cuando todo el mundo se una.
Et sauf que le mouvement en Colombie aura des possibilités d'être effectif seulement quand tout le monde sera uni.
Porque lo contrario seguirán asesinando jóvenes, seguirán asesinando indígenas, porque las formas de esa gente bien colombiana que no valora para nada la vida es matar a toda aquella persona que se le cruce en el camino.
Parce que sans ça, ils continueront à tuer des jeunes et à tuer des indigènes, parce que c'est la manière de faire qu'ont les riches en Colombie depuis le début, c'est de les exterminer.
Más de 500 personas desaparecidas.
Il y a plus de 500 personnes disparues aujourd'hui.
Muchos jóvenes muertos. Hoy por hoy un amigo mío del pueblo donde vivo está desaparecido, no ha aparecido, su familia está preocupada.
Beaucoup de morts beaucoup de disparus. Moi j'ai un ami à moi qui aujourd'hui est disparu et sa famille est inquiète, on ne sait pas où il est.
Entonces si los ojos del mundo y la política del mundo no pone los ojos en Colombia, a ese movimiento como a tantos otros lo pueden exterminar.
Et si les gens dans le reste du monde ne font pas attention et regardent pas ce qui se passe là-bas en Colombie, comme à plein d'autres endroits sur Terre, on va finir par nous exterminer.
Merci.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc c'est hyper fort, c'est hyper poignant, c'est hyper violent, plein d'espoir et du désespoir. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de ça ce soir, parce que tout le monde écoute Brasero, du coup tout le monde va écouter la Colombie. Et pour l'instant, on va mettre une petite musique avant de continuer la discussion.
Los collares de la reina,
los pagamos nosotros.
La empleada que la peina,
la pagamos nosotros.
El avión presidencial,
lo pagamos nosotros.
El presidente y el general,
nosotros.
La polarización del vidrio,
nosotros.
El banco y el equilibrio,
nosotros.
El salario del Senado,
lo pagamos nosotros.
El senador relajado,
lo pagamos nosotros.
La campaña y la financiación,
nosotros.
La vacuna y la conspiración,
nosotros.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué
será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado?
Sí, viene todo regalado. Sí, viene todo regalado. Sí, viene todo regalado.
¿Quién tiene el estilo de la lírica? ¿Quién tiene la ciencia y la mística? ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño?
Nosotros.
¿Quién pierde la paz y la guerra?
Nosotros.
¿Quién pierde el pedazo de tierra?
Nosotros.
¿Quién es el bombero y el artista?
Nosotros.
¿Quién echa el asfalto en la autopista?
Nosotros.
¿Quién maneja las máquinas?
Nosotros.
¿Quién enseña matemáticas?
Nosotros.
¿Quién hace los goles?
Nosotros.
¿Quién poda los árboles?
Nosotros.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado?
Ok, donc on est toujours à Canal Sud, à Bras Zéro, 92.2, meilleure émission du monde, et on parle de la Colombie et de l'insurrection qui vient, et de la répression terrible, mais le mouvement qui persiste toujours et encore. Du coup, Amparo, est-ce que tu veux nous raconter quelque chose ? À toi la parole.
Merci. Oui, depuis 2016, effectivement, il y a eu les processus de paix. On pensait tout. On avait vraiment un grand espoir de que ça se finisse. Que
tu parles du processus de paix avec les FARC, c'est ça ?
Oui, okay. Les processus de paix avec la FARC. Et après 50 ans de, disons, de vis-à-vis avec les gouvernements, etc., on réussit à avoir la paix. Mais malheureusement, ça a laissé plutôt les champs, surtout dans les régions. Beaucoup de régions assez libres pour plein de mouvements, par exemple les paramilitaires qui jamais ils ont été clairement qui n'ont pas clairement déposé les armes finalement, malgré qu'ils avaient eu aussi un procès de paix avec eux, et aussi pas mal des cartels, par exemple les cartels de Sinaloa dans les sud ou surtout dans la région del Valle, de Cali, de Cauca, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui c'est très difficile dans tout ce contexte, la violence, et ça explique aussi la violence qui subissent ces régions aujourd'hui. Et on voit que la Colombie, il y a quand même 42% des gens qui sont pauvres, qui sont en extrême pauvreté, 60% des travailleurs informels. Et puis on voit que depuis les mouvements sociaux qu'on disait 2019, les mouvements étudiants, et il y a eu 4 morts à ces mouvements, 250 blessés. Ça fait que il y a aujourd'hui une escalade importante. 2020 aussi, il y a eu en septembre 2020 un autre mouvement, 13 morts déjà, 300 blessés, et aujourd'hui c'est l'escalade totale. À 5 mai 2021, il y avait 37 morts, 417 disparus officiellement qui sont recensés, et surtout presque 2000 blessés. Alors du coup, effectivement, l'escalade de la violence, elle est là. Elle est très importante. Ce sont des mouvements, surtout des paramilitaires, qu'on ne comprend pas très bien qui sont, ou plutôt oui. C'est plutôt la société civile qui est armée, surtout les grosses... des entrepreneurs et aussi de grosses propriétaires terriens. Il faut dire qu'en Colombie, il y a eu carrément presque une réforme agraire à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu plutôt un mouvement où on a enlevé les paysans par la force de ces régions et qui sont été réversés dans les villes et dans des quartiers évidemment très paupérisés. Et par contre, ça a augmenté et ça a concentré les terrains dans quelques propriétaires en Colombie qui aujourd'hui sont l'élite, une élite qui a été à l'origine de ce type de mouvement, comme Álvaro Uribe Vélez, que tout le monde connaît. Alors, du coup, même la conseillère présidentielle Nancy, elle disait que les droits humains n'existent que si les citoyens respectent les devoirs, c'est-à-dire qu'elle fait une incitation à que la société civile prenne les armes et nous, autant que société civile, on prend pour que, effectivement, il n'y en a pas de cela. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les droits humains soient respectés, les droits fondamentaux soient respectés et qu'il n'y a pas de lieu de qu'il y a plus de disparus ou de personnes qui sont amenées je ne sais pas où et puis en plus torturées, etc. par les forces de l'ordre. Je pense qu'il faut surtout, les gens dans les pays nous font un gros appel, un gros SOS pour qu'on respecte les droits humains, tout court.
Ok. Ben, ça c'est clair, donc voilà, il faut... Tout le monde a entendu le message de Amparo, donc voilà. Non, c'est... En fait, j'ai juste une petite question, du coup. Là, par exemple, les 26 morts qu'il y a eu en Colombie, là, depuis le 28 avril, c'est le fait des paramilitaires ou c'est le fait de l'État ou il y a un peu des deux? Est-ce qu'il y a l'armée qui est entrée en compte aussi? Est-ce que les gens, ils s'organisent? Est-ce que les gens aussi, même de gauche ou d'extrême gauche, en face, ont des armes aussi? Parce qu'il y a aussi, je crois, une guérilla qui n'avait pas baissé les armes, c'est l'ENL, du coup.
Oui.
Donc là, le rapport de force, il est comment au niveau...
Au départ, en fait, il n'y en a eu que la police et les SMAD. Et ils utilisaient effectivement des armes. Il y a eu pas mal de gens désébornés, comme ici, malheureusement. Il y en a eu aussi de gens qui ont été tués tout simplement parce que si l'impact des LBD, il est trop proche, il peut tuer quelqu'un. Et il y a eu aussi une mamie qui est morte à cause de gaz, tout simplement, chez elle. Et du coup, effectivement, il y en a pas mal de gens qui sont mortes tout simplement par la police et les SMAT, les forces comme ici, les CRS. Mais par contre, effectivement, dernièrement, depuis les 3 mai ou même avant, et ils sont mobilisés, les militaires aussi. Malheureusement, les militaires, ils ont des armes et ils tirent à balles réelles. Et puis en plus, effectivement, il y a des forces qui commencent à s'organiser. C'est le cas de Cali, où les nuits, ils partent pour faire des rafles et faire ce qui s'appelle des nettoyages. Il y a eu pas mal de pancartes ou plutôt de... ils sont sortis des communiqués en disant qu'on va faire la loi la nuit. Alors du coup, effectivement, sous les quartiers, ils se mettent, sont des gens incivils, on ne sait pas très bien, ils sont emparés des fois par des groupes armés, de la police, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, effectivement, ce qu'ils font, c'est chercher carrément des leaders, comme c'était le cas à Pereira, où ils sont, c'est bizarre, mais à ce moment-là, ils ont éteint la lumière. Et cette personne qui était un des leaders de la manifestation de Pereira, il a été assassiné. Mm. Il a été en tout cas très gravement blessé. Je crois qu'il a eu 8 impacts.
Ok.
Et juste pour donner un exemple, hier soir, il y a la Ming indigène qui était revenu à Cali et qui était dans les campus de l'université publique, l'université del Valle. Et du coup, il venait dans des chivas, des bus, et il y avait des civils en camionnette qui ont tiré dessus, qui ont fait 8 blessés. En ce moment, il y a une des responsables de jeunesse du CRIC, donc du Conseil régional d'hygiène du Cauca, qui est gravement blessée à l'hôpital, et que c'est entre la vie ou la mort. Donc, c'est... Non, ils ne sont pas armés. Disons qu'il y a une réponse défensive, plutôt avec ceux qui ont à la main. Mais ceux qui sont armés, c'est la police. Et ces civils qui sont armés, qui on appelle paramilitaires, et qui a eu beaucoup de vidéos qui circulent, où il y a un vrai travail ensemble. Certains qui sont... en uniforme de la police, et d'autres non, avec des armes.
Es una lucha completamente desigual. C'est une lutte complètement inégale.
Es una lucha de encapuchados que se mueven con piedras, aerosoles, en bicicletas o a pie pintando paredes.
C'est une lutte de gens qui sont avec des cagoules, des aérosols, des pierres et qui se baladent en vélo en train de peindre les murs.
Con un ejército armado y un ejército paramilitar y una ciudadanía derecha armada con gases lacrimógenos, armas de fuego, tanquetas y numerosos y un número grande de militares y de personas vinculadas a la a contrarrestar la manifestación.
Et contre donc du coup en face il y a une armée, il y a des personnes qui ont des armes, des paramilitaires et tout un tas de donc avec des tanquettes, avec des gaz lacrymogènes, avec des armes à feu et toute la panoplie et qui sont vraiment organisés pour contrer les manifestations.
Imagínese que usted y yo nos pusiéramos a pelear en estos momentos y yo comenzara a pegarle a usted con lo que tengo en las manos y con lo que tengo al lado y usted abre un armario y saca un armamento completamente casi que bélico de ese armario.
Imaginez, on est là, on commence à se battre, vous et moi, et moi j'attrape ce que j'ai sous la main, le banc là, etc. Et vous ouvrez une armoire qui est derrière vous et vous sortez un armement de guerre.
Entonces hay una gran descompensación y lógicamente tras esa descompensación, ¿qué hace un manifestante? Un manifestante ataca los corazones simbólicos de esa sociedad que está atacando. ¿Y cuáles son los corazones simbólicos? Los bancos, los sitios simbólicos de la ciudad como calles representativas, monumentos, que son lo que visiblemente más aparece en los medios.
Alors il y a vraiment une inégalité énorme entre les deux côtés et ce qu'attaquent les manifestants, c'est le cœur symbolique de ce système, donc les banques évidemment, mais aussi les monuments qui sont au cœur des villes et c'est ce que voient et ce que filment les médias.
Finalmente, digamos, hay unas acciones violentas que vienen de lado y lado, es decir, tanto de quienes reprimen la manifestación como de quienes desarrollan la manifestación, pero hay una gran diferencia.
Alors finalement il y a des actions violentes qui viennent des deux côtés, de ceux qui répriment la manifestation et de ceux qui font la manifestation, mais il y a une grande différence.
Y eso lo digo con conocimiento de causa porque he hecho parte de las manifestaciones.
Je le dis en connaissance de cause parce que j'ai fait partie de ces manifestations.
El bando que representa al Estado o al gobierno, en cabeza de paramilitares, en cabeza de fuerzas militares y en cabeza de los mismos políticos, no tiene respeto por la vida.
La bande qui où il y a l'État, où il y a les paramilitaires, où il y a les militaires, etc., n'ont pas de respect pour la vie.
Soy consciente porque tuve familiares policías que la policía y las fuerzas militares educan a sus miembros para que la vida del otro no valga un solo peso, un solo euro.
Je connais cette réalité parce que j'ai de la famille qui est policier et cette institution éduque les personnes qui l'intègrent à n'avoir aucun respect pour la vie et leur dire qu'une vie ne vaut pas un pesos, un euro.
Y lastimosamente tengo que generalizar porque las fuerzas militares y esa ciudadanía paramilitarizada que es la que ha manejado Colombia hace 50 años es una clase y un segmento de la sociedad envenenada y que va a asesinar y a exterminar a toda aquella persona que se le cruce en el camino para seguir sosteniendo su estado de confort en Colombia.
Et malheureusement, je dois généraliser parce que en fait, la société militaire et la société militarisée paramilitaire qui finalement manœuvre la Colombie depuis 50 ans pour se maintenir dans son confort et dans son mode de vie va assassiner toutes les personnes qui se dressent devant elle.
Et si la vida como valor supremo no tiene fundamento, ahí todo acaba.
Et si la vie comme valeur suprême n'a pas de support, n'est pas respectée, tout va s'arrêter.
Oui, je voudrais insister aussi sur le fait qu'il peut paraître une situation chaotique, sans queue ni tête, mais en fait, il y a des gros intérêts derrière. Par exemple, les leaders ambientaux qui ont été décimés, en général, ils défendent des projets qui sont contre, par exemple, l'exploitation de l'or ou d'autres minéraux qui vont, par ailleurs, amener des gros dégâts dans, non seulement dans la forêt amazonienne, sinon dans tous les territoires. Alors, il faut comprendre aussi ça. Et il y a aussi des gros intérêts économiques dans les grandes banques et tout ça, dans les secteurs financiers, parce que, par exemple, les réformes qui sont en train de se faire, les réformes et qui se sont faites de la santé, par exemple, ils sont derrière les intérêts économiques des grands financistes ou des grands financiers qui vont être bénéficiaires de toutes ces réformes. Pareil pour la réforme tributaire, en fait, on avait fait une en 2019 où on bénéficiait clairement plutôt les exemptions de les secteurs les plus favorisés, et aujourd'hui on en fait une plutôt pour prendre de l'argent et pour pouvoir payer la facture de Covid et les faire payer malheureusement aux gens qui sont vraiment vraiment dans les besoins. Alors du coup, effectivement, c'est ça les problèmes. Ça peut pas être chaotique, mais finalement ce ne l'est pas. Il y a toutes des raisons très concrètes, en général économiques, qui vont derrière toutes ces violences, surtout dans les régions.
Du coup, c'est une violence sociale extrême. Et je crois savoir qu'il y a aussi pas mal de multinationales, en fait, en Colombie. Donc derrière les paramilitaires se cachent les grands propriétaires terriens, et derrière lesquels se cache aussi le système de classe d'élite de Uribe, l'ancien président. Mais en fait, il y a aussi des intérêts économiques mondiaux hyper grands. Et donc l'Occident, en fait, les Occidentaux, en fait, ils protègent aussi leurs intérêts. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que personne ne se prononce trop sur ce qui est en train de se passer actuellement, qui est gravissime et tout. Et donc, évidemment...
Oui, par exemple, il y a toute une région. C'est une région que j'ai connue, malheureusement, parce que c'est la région où ils sont invités ma famille. C'est la région de Llanos et il y a eu l'exploitation minière. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une région qui a été dominée par beaucoup de secteurs, autant des uns et des autres, qui sont violentes. Et je pense qu'à l'origine de tout cela, il y a cette richesse de sous-sol qui, en plus, a fait des gros dégâts environnementaux. Et pareil pour Saint-Urbain, c'est un paramètre iconique qui donne de l'eau pour une ville qui s'appelle Bucaramanga. C'est derrière eux, il y a des gros intérêts sur l'exploitation de l'or dans cette région.
Je vous propose de remettre une petite page de publicité. Donc voilà, vive la révolution. Une petite page musicale surtout.
Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado. Lo conocían los Misak, lo conocían los Wayú, lo conocía todo el parche LGBTIQ. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Que era un escándalo, que era un escándalo. Mataba niños inocentes. Gobierno vándalo, gobierno vándalo. Lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. ¡Ya se cayó! El monumento ya se cayó. El monumento ya se cayó. El monumento ya se cayó. El monumento. Y el que no salte es el infiltrado. 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 Y el que no salte es el infiltrado.
Salut fans de Brasero, on est toujours sur Canal Sud 92.2, la meilleure émission du monde. On parle encore et toujours de la révolution colombienne et lo que viene. Qu'est-ce qui va se passer pendant, enfin, et après ce mouvement insurrectionnel sans précédent? On est toujours avec Amparo, Felipe, Alejandro et Américo à la traduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite?
Disons que le Covid, ça a été un peu le détonant de tout ce malaise social parce que ça a vraiment dénudé la maigre situation qu'il y avait autant de points de vue d'économie que de santé. Et par contre, je pense que je suis assez optimiste et assez positive dans l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on a un mouvement aussi large et qu'en plus, le fait que... pour moi, c'est assez positif que c'est plutôt les gens qui sont organisés. Il n'y a pas vraiment un mouvement politique qui peut s'attribuer ce type de mouvement. C'est un mouvement qui comprend toutes les couches sociales et puis plusieurs mouvements ensemble. C'est-à-dire, il y a les étudiantes, il y a les syndicalistes, et il y a aussi, par exemple, dernièrement, les camionneurs, les taxistes, plein de secteurs de la société civile qui se sont auto-organisés et qui, aujourd'hui, nous proposent un nouvel modèle des sociétés. Effectivement, on est inquiet parce que les derniers régimes, ils sont pas prêts de laisser sa place. Mais en même temps, peut-être aussi la conjoncture internationale, il fait que, par exemple, Biden aux États-Unis, ça, c'est très trop optimiste. Je pense que aujourd'hui, on est plus sur un régime dur, style Reagan ou je sais pas, qui est au Bush, qui n'aurait plus, je dirais pas, ils vont favoriser, mais au moins, ça sera pas un désavantage pour les pays. Alors, je pense que la conjoncture internationale, malgré qu'il y a des problèmes, ça peut être, je dirais, favorable même dans l'Amérique latine. On est en train de voir quel type de changement se présente, mais j'essaierai plutôt positif parce que déjà, le mouvement, il a tenu pas plus que, non seulement un an, plusieurs années, et au fil des années, il s'est fine et il continue.
Moi, je suis assez d'accord avec l'optimisme parce que ce qui montre la grosse répression, c'est la réponse à un gros mouvement assez large, assez hétéroclite, où il y a des secteurs émergents qui ne s'avaient pas mobilisés auparavant, qu'il y a des vraies mobilisations, des vraies auto-organisations dans les quartiers populaires et qu'on est à un an d'une présidentielle et que c'est assez court en termes de temps de, parce que et ça montre une délégitimité des régimes en place, justement de l'uribisme, de tous ces régimes. Donc il y a une forte mobilisation, c'est pour ça qu'ils veulent la terre le plus tôt possible, parce que ça leur convient pas.
Ceci dit, il y a 4 ans, il faut dire que les mouvements, même cet inconformisme, il s'exprimait aussi dans les urnes. Et il y a quand même des 20 millions, plus ou moins, il y a eu quand même 8 millions de personnes qui ont voté pour une voie alternative. Alors, c'est pour ça aussi que je pense l'année prochaine, même dans les urnes, ça va s'exprimer.
O sea, esta generación no la paró el COVID, no la va a parar nada. Es decir, ni las balas de los ejércitos, del gobierno, ni los paramilitares la van a parar. Esto es un movimiento inusitado.
Cette génération, le Covid ne l'a pas arrêté et rien va l'arrêter. Pas les balles des militaires, pas les balles des paramilitaires.
Y porque ya no están convocando los grandes medios, ya se están convocando a través de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter. Por ahí se están comunicando los jóvenes. Por ahí se está generando el combustible necesario.
Parce que déjà ça passe par les réseaux sociaux, par Instagram, par Facebook, par Twitter, etc. Les jeunes communiquent là-dessus et là il y a un combustible à ce qui se passe.
Y no es que haya sido esta una aparición tardía. Digamos que aparecieron oportunamente y se vienen conectando con movimientos sociales como el sindicalismo, como el magisterio, como movimientos indígenas, movimientos campesinos que ya venían trayendo un trabajo importante de movilización.
Et ça, c'est quelque chose d'un peu neuf, un peu opportuniste, qui arrive là maintenant, mais qui vient se greffer à des mouvements qui s'organisent depuis longtemps, le mouvement syndical, le mouvement paysan, le mouvement indigène, le mouvement des enseignants et enseignantes, qui viennent se mobiliser depuis très longtemps.
Para utilizar una metáfora, hay una piedra muy grande en el zapato del Estado.
Pour utiliser une métaphore, il y a une pierre très grosse dans le soulier de l'État.
¿Cuál es el paso siguiente? Incidir decisivamente en las urnas. Es decir, elegir. Lo que tenemos a mano es elegir presidente. Puede que hay una figura que genera mucha distancia, diferencia, pero creo que es la figura que hoy por hoy podría cohesionar ese grupo de jóvenes, que es Gustavo Petro.
Alors, là, peut-être une phase bientôt, c'est de choisir dans les urnes et de choisir quelque chose qui convienne et qu'une figure qui peut, même s'il y a des différences, qui peut convenir à ces jeunes, c'est la figure de
Gustavo Petro.
Gustavo Petro.
C'est-à-dire, c'est le représentant de la izquierda más visible hoy por hoy.
C'est le représentant de la gauche le plus visible aujourd'hui.
Entonces eso, ese es el diagnóstico que tengo que dar. Es un movimiento que seguirá generándole malestar al gobierno de turno, poniendo muertos lastimosamente, pero seguirá ahí.
Mais c'est un mouvement qui va continuer selon le gouvernement de service et qui va continuer à protester, peut-être malheureusement avec des morts, mais qui continuera là, qui continuera à protester.
Je voudrais aussi parler par rapport à ce qui disaient les collègues sur la violence. En fait, je dirais que c'est plus métaphorique. Une chose qui m'a surpris dans le mouvement des étudiantes, c'est justement son pacifisme et sa maîtrise de ce pacifisme. Vraiment, c'est des gens très contrôlés et ils sont plus dans les performances artistiques ou autres que vraiment dans la violence, malgré qu'effectivement, tout le monde mouvements sociaux, il y a des débordements.
Un des slogans du mouvement chilien de 2019 disait « Nos robaron tanto que nos quitaron hasta el miedo ». Traduction.
Ils nous ont tellement volé qu'ils nous ont même enlevé la peur.
Est-ce que vous pensez que c'est ce qui se passe actuellement en Colombie ?
En tout cas, c'est une des consignes les plus répétées. Je pense que ça exprime bien l'esprit de tous les jeunes.
Oui. Je pense, oui, parce qu'il y a une grosse précarité sans précédent. Et donc, oui, il y a même une consigne qui a été reprise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de certitudes dans cette affirmation.
Ok, et bah, du coup, s'ils ont volé la peur, le mouvement va continuer, on espère, et on soutient énormément les camarades et le peuple colombien. Voilà. C'est la fin, malheureusement,
merci beaucoup.
De cette
merci
émission.
Merci beaucoup pour l'espace.
Merci beaucoup, vraiment.
Avec plaisir, merci à vous, surtout.
Merci beaucoup.
Muchas gracias. Gros courage. Et du coup, merci donc Américo pour la traduction et Ariela aussi. Merci. Et Alejandro qui était là, Felipe, Amparo, et Chico et Marie à la technique. Ouais, pull up. Donc, on va mettre une petite musique de fin pour se dire au revoir et bon courage.
Hasta luego.